Touba, président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Raoul Dagba, je commence par vous pour parler du président Trump et de l'Afrique. Pour des observateurs, le locataire de la Maison Blanche n'avait pas beaucoup parlé de l'Afrique auparavant. Pensez-vous que cela a changé cette semaine? Le continent africain va-t-il enfin devenir l'une des priorités de l'administration Trump?
Bien entendu, parce que nous entendons ce moment du président des États-Unis et je puis vous dire que nous sommes très ravis de son intervention. L'Afrique a besoin d'une nouvelle structure de travail. L'Afrique a besoin d'une structure économique plus efficace. L'Afrique a besoin d'aides qui sont des aides qui ne vont pas nous plonger, mais des aides qui vont faire en sorte que nous allions vers le développement. Donc je suis plus que persuadé que son intervention au niveau de l'Afrique ou à propos de l'Afrique est une bonne chose.
Oui, mais Raoul Dagba, son gouvernement n'a pas encore nommé sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Le président américain trouve bon que l'Afrique a un potentiel commercial énorme. Et d'ailleurs, voici ce qu'il avait à dire, en fait. J'ai plein d'amis qui vont dans vos pays pour essayer de devenir riches. Qu'en pensez-vous très rapidement, Raoul Dagba?
Je pense que dans les jours ou bien dans les mois à venir, il pensera à ça et il nommera probablement un secrétaire qui sera chargé de nos problèmes. Et je peux également vous dire que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités au niveau des ressources minières. Nous avons le pétrole, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons plein de choses qui sont aujourd'hui une sorte de compétitivité au niveau économique mondial. Et je peux vous dire que c'est une bonne chose et que nous arriverons à une situation plus favorable que nous vivons actuellement en Afrique.
Une bonne chose, évidemment. Ce qui polarise toujours l'attention, ce sont les mots très durs que le président Trump a eus à l'égard de la Corée du Nord et de l'Iran. Jean-Victor parlait de destruction totale d'un pays. C'est un langage très peu diplomatique, pour dire le moins.
J'ai été, et je suis très heureux et très fier de le dire, trois fois porte-parole au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est quelque chose que je n'ai pas entendu. En tout cas, il y a peut-être d'autres qui ont été porte-parole avant moi, certainement, qui ne l'ont peut-être pas aussi entendu. En réalité, la famille des nations et le conclave qui se tient une fois par an à New York est essentiellement fait pour que les chefs d'État se parlent entre eux. Il faut maintenant laisser de la liberté aux chefs d'État individuellement d'assumer et d'exprimer leur volonté et leur choix stratégique. Pour ce qui est de la famille des nations et des Nations Unies, il faut commencer par rappeler que le motto des Nations Unies, c'est de parler de paix. C'est de faire que les nations se mettent ensemble pour un vivre ensemble. C'est de s'assurer que nous allons transformer, comme le fait cette statue, ce monument aux Nations Unies, les missiles et les kalachnikovs, on peut les transformer en monuments d'art et en lieu de rencontre. Donc il ne s'agit pas pour moi ici de commenter des États-Unis ou de la Corée du Nord, simplement pour rappeler que l'Assemblée générale a été créée précisément pour que les conflits soient discutés au sein d'une même famille.
Ah, il faut dire quand même que Kim Jong-un, qualifié d'instable, ne finit pas de provoquer les États-Unis, n'est-ce pas? Suleiman Baldo, je voudrais aborder avec vous la crise politique en RD Congo. Une réunion à huis clos a eu lieu mardi dernier en marge de cette assemblée. L'ONU table toujours sur une présidentielle d'ici au 31 décembre, n'est-ce pas? Autant que je me souvienne, on avait entendu pratiquement le même langage l'année dernière. Peut-être que Jean-Victor va me corriger là-dessus, mais l'ONU doit-elle faire davantage pour que l'actuel gouvernement de Kinshasa fixe une date enfin?
Bien sûr, c'est le but même de l'effort diplomatique dans la résolution du conflit au Congo. Il y a la crise politique sur le plan national, déclenchée par le refus du président Kabila d'accéder les élections de 2016 avoir lieu et de continuer son mandat. Or, il y a aussi des conflits au niveau local et les Nations Unies doivent s'adresser aux deux en même temps. Et donc, il faudra peut-être qu'il y ait des moyens plus adaptés à cette double nature de la crise en RDC.
Je voudrais juste commenter très rapidement, parce que ce que vient de dire Suleiman est très important. On oublie souvent de rappeler que le travail des experts, le travail de l'ONU, le travail qui se fait en profondeur, prend beaucoup de temps. Vous voyez, on n'a pas eu véritablement besoin d'une intervention très ouverte pour qu'on s'aperçoive qu'au Kenya, il y a un changement gigantesque où la Cour suprême a déclaré nul et non avenu les élections qui ont été qui se sont déroulées au niveau de la présidentielle. Donc ces élections vont être recommencées. Et cela, à mon avis, c'est la conséquence d'un travail multiforme, multiplateforme et de longue haleine. Et il faut donc dire que là aussi, l'Afrique montre cet exemple, parce qu'on présente souvent le continent africain comme un continent négatif qui s'enfonce. Et là, on voit qu'au Kenya, il y a le pouvoir judiciaire qui joue pleinement son rôle.
On reviendra sur cet aspect un peu plus tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors Jean-Victor, dites-nous, pourquoi nous n'entendons pas beaucoup parler du climat très tendu actuellement au Togo où la rue continue de réclamer le départ du président fort Nyasingbé?
Écoutez, en plus de la situation au Togo, il y a d'autres situations africaines qui sont encore plus importantes. Il faut se rappeler que le Conseil de sécurité, qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité internationale, commence à évoquer les questions quand ces situations sont dans l'ordre du jour, dans le calendrier de leurs travaux et de leurs discussions. Et tant que ce n'est pas encore le cas, c'est un peu plus difficile. Mais je crois qu'il faut dire qu'il y a d'autres situations dans le monde, non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs. On parle par exemple de la situation des Rohingyas du côté du pays de Haïti qui avait été n'est pas mise au diapason des droits de l'homme quand elle-même elle a souffert de toutes sortes d'abus. Je crois que pour ce qui se passe au Togo, il faut encore voir là que la rue est en train d'exprimer une sorte de droit qui est le droit à la manifestation.
Si vous me permettez de revenir sur la RD Congo, c'est quoi la solution pour l'ONU? Le départ de Kabila?
Il n'y a jamais de solution que celle choisie par les citoyens d'un pays eux-mêmes. En d'autres termes, quand bien même l'ONU aurait une solution, l'ONU ne peut pas l'imposer. Il faut bien, s'il y a une paix, qu'il y ait une paix à garder, que cette paix existe, qu'il y ait un accord. Souvenez-vous du Mozambique, un pays qui avait été déchiré par une guerre très brutale, par un conflit très long. Mais une fois que les Mozambicains se sont mis d'accord grâce à Sant Egidio à Rome, ils ont pu appliquer, grâce à la communauté internationale, n'est-ce pas, un accord de paix qui maintenant fait du Mozambique un pays qui avance. Donc l'ONU n'a pas de solution, mais l'ONU peut faire partie de la solution et doit venir appuyer des accords. Encore faut-il que les citoyens eux-mêmes s'engagent dans ce sens. Tout accord de l'ONU ou toute imposition de l'ONU ne servira à rien si les citoyens eux-mêmes ne sont pas partie prenante.
Il y a tellement de dossiers. Là, en fait, il nous faudra parler du dossier centrafricain. Ce pays, en fait, est toujours plongé dans des affrontements ethniques. Son président, Faustin Archange Touadéra, est venu demander plus de casques bleus et une aide accrue pour que la Centrafrique ne replonge pas dans le chaos. Suleiman Baldo, après 4 ans d'intervention onusienne, pourquoi des groupes armés continuent de sévir dans ce pays?
Ils continuent à sévir parce qu'ils veulent contrôler des terrains, ils veulent contrôler des ressources pour s'assurer une place autour de la table lorsque les médiateurs viennent pour résoudre le conflit. Au Congo comme en Afrique, au Centrafrique, les ressources jouent un rôle majeur dans l'alimentation de conflits. Et tant que cela n'est pas adressé par les mécanismes d'intervention diplomatique, c'est-à-dire prendre le facteur de compétition sur le contrôle de ressources des nations africaines, par les leaders politiques et par les groupes armés, cela n'avancerait pas les efforts de paix. Et donc les Nations Unies doivent affiner les moyens pour vraiment prendre ces facteurs économiques de compétition sur nos ressources pour que les acteurs armés et les acteurs politiques soient en quelque sorte coercés à venir, trouver des solutions sincères avec l'aide des médiateurs. Mais le facteur économique est vraiment à l'origine de cette situation désastreuse en Centrafrique.
Oui, en fait, il y a tellement à dire là-dessus, Jean-Victor. Même en fait, il y a un haut responsable de l'ONU qui a récemment mis en garde contre des signes avant-coureurs de génocide en Centrafrique. Y a-t-il donc urgence à faire quelque chose, en deux mots, si vous pouvez ?
Tout à fait, il y a urgence. Et quand un haut responsable de l'ONU ou quand un expert de l'ONU dit quelque chose ou fait son travail, il faut écouter. Parce que si on n'écoute pas, après, les conséquences, on va plus tard chercher quels sont les responsables. Donc, le travail que fait M. Adamadien, le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, et le travail que font les experts de l'ONU, ou des personnalités qu'il faut écouter, comme M. Souleymane Baldo, ou nos représentants sur le terrain, c'est véritablement des signes avant-coureurs très importants qui peuvent permettre de peut-être prévenir de grandes calamités.
Mais il faudra ajouter tout simplement aussi qu'en Afrique, en Centrafrique, c'est une opération ethnique multisectorielle. Beaucoup d'ethnies sont affectées. Ce n'est pas une entreprise planifiée pour venir au bout d'une seule ethnie ou bien d'une seule communauté. Tout le monde souffre, n'est-ce pas? Et la facteur essentiel pour cette souffrance collective, c'est vraiment l'appétit grand de ces groupes armés et de ceux qui sont en géopolitique pour le contrôle des ressources du pays.
Voilà, je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Claude Muyumba, Kinshasa, RD Congo. J'ai l'impression qu'on gagne de l'argent par la gestion des conflits et que les conflits ne termineront jamais. C'est le cas de la RDC et la MONUSCO. Et Hassan Omar Boulale Gash, Djibouti, ce rendez-vous annuel n'aboutit à rien, surtout pour l'Afrique. L'Afrique, je vois en fait Jean-Victor qui... je vais continuer ce commentaire de Facebooker. Vous allez réagir tout à l'heure. L'Afrique doit prendre la danse diplomatique et unir sa force pour obtenir le droit de veto. Voilà, nous allons retrouver nos invités dans quelques petits instants. Washington Forum revient après cette courte pause.
En plus de nos programmes sur FM 11 jours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Gemena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Réalise.
Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Le point sur l'Assemblée Générale de l'ONU cette année. Il est également beaucoup question de la réforme de la machine onusienne elle-même. Son efficacité fait parfois l'objet de critiques. Qu'en pensent les Africains? VOA Afrique a tendu son micro à quelques habitants de Kinshasa.
Moi, je trouve qu'il n'est pas parce que ça va être au micro. C'est peut-être ceux qui bénéficient de leur présence ici, dans notre province, ceux qui travaillent à la MONUSCO, parce que là, ils gagnent un peu quelque chose. Mais concernant la sécurité qui règne partout dans des villages, on attend que les gens à Beni, hein, l'insécurité même ici dans la province, partout, moi, je trouve qu'ils ne font pas son travail comme il dit.
Ils remplissent les missions d'une part et de l'autre. Que l'insécurité continue à gangréner dans les nord-est où les guerres continuent à se multiplier, alors que leur mission était de venir apporter une aide pour la paix ici au nord. Même continuant à avoir des milices, des rebelles qui continuent à envahir les territoires, les villes.
Il ne faut rien, même si vous êtes attaqué. Mais des chiens, il n'y a pas de soucis.
À propos de la MONUSCO ici au Congo, je vois que c'est une mission onusienne qui nous a facilité, à neutraliser les rebelles des M23 et ça continue toujours à pacifier nos territoires contrôlés par les gouvernements nationaux. Mais aussi, de ma part, je pourrais préférer que ça puisse encore nous soutenir jusqu'à ce que les élections se tiennent dans la paix.
Voilà, des Quinois interrogés par VOA Afrique. Et nous retrouvons nos invités à Washington, Raoul Dagba, président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Avec moi sur ce plateau, Souleymane Baldo, expert indépendant des Nations Unies, et Jean-Victor Collot du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique à l'ONU. Jean-Victor, vos réactions à ce commentaire Facebook également à ce micro-trottoir.
Les critiques sont très bienvenues, elles sont très constructives. Je pense qu'il faut que nous en prenions de véritables leçons pour améliorer. Simplement, j'aimerais dire, comme quelqu'un qui a travaillé dans 10 missions de maintien de la paix, deux fois au Congo, qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de travailleurs de l'ONU qui ont payé un sacrifice très lourd, le sacrifice parfois ultime. J'ai mis moi-même des collègues dans des sacs plastiques, dans des cercueils pour les renvoyer à la maison. Tragique. Si vous prenez par exemple Haïti, nous avons des collègues dans le siège de l'ONU, y compris leur présence officielle, qui se sont tous effondrés avec les centaines de milliers d'Haïtiens qui avaient été, n'est-ce pas, tués lors du tremblement de terre. Les missions de maintien de la paix coûtent cher, ne sont pas faciles, et les erreurs que nous faisons, comme ça se fait un peu partout dans toutes les structures, nous devons les corriger. Mais simplement, il faut se rappeler que l'ONU a fait beaucoup de choses au Congo. Nous avons appuyé le processus électoral 2005-2006. Je rappelle, par exemple, les villageois du côté de Mwanza Goma, dans le Kasaï occidental à l'époque. On a reconstruit des ponts, on a fait des choses. Tout n'est pas parfait. Le Congo, c'est comme l'Europe de l'Ouest, sans ponts, sans routes, avec très peu d'infrastructures, oui, notamment à Kinshasa, dans les villes, etc. Il nous faudrait beaucoup plus de moyens pour y arriver. Moyens humains, moyens financiers, moyens logistiques, mais surtout, cela appartient aux Congolais, la volonté politique d'avancer. Okay. Pas nécessairement ou exclusivement aux Nations Unies.
Voilà, beaucoup plus de moyens. Et justement, en ce moment, on est en train de parler de la réforme de l'ONU. Que veut-on réformer exactement dans les grandes lignes?
C'est très bien que vous posiez cette question, Jacques, parce que quand on parle de réforme, on a l'impression qu'au secrétariat, il y a des gens qu'il faut renvoyer ou des choses qu'il faut faire. Oui, mais il y a aussi que l'ONU, c'est compliqué. C'est un système avec des organes principaux, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale. Il faut d'abord réformer quelque chose que les Africains ont évoqué depuis longtemps avec le consensus de Ezulwini. L'Afrique veut être dans la discussion, dans la conversation, pour prendre sa responsabilité dans ce qui est fait et décidé. Non pas seulement pour être à la réception des décisions qui sont prises. Et ça, c'est une réforme.
Justement, cela inclut la demande africaine. 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et 5 non permanents. Cela va-t-il se faire un jour?
Je pense que cela va se faire. Je pense que c'est inévitable. L'Afrique, c'est d'abord un pouvoir démographique, le pouvoir de notre jeunesse, la jeunesse africaine, mais c'est aussi un pays, un continent où il y a une très forte croissance, mais c'est aussi un continent qui va surprendre beaucoup de gens à beaucoup de niveaux. On voit ce qui se passe au Kenya, on voit des pays qui avancent, on voit ce qu'il y a comme changement. Les Africains, que ce soit d'abord les femmes et les jeunes, sont prêts parfois à aller dans la rue, parfois à prendre des risques et parfois à faire avancer. Et puis, il y a aussi tout le défi technologique. L'Afrique avance par grands bonds. Et je pense que l'Afrique, c'est un continent avec lequel il va falloir compter et l'Afrique prendra sa place dans la famille des nations.
Souleymane Baldo, ces réformes telles que présentées par Jean-Victor vont-elles finalement profiter au continent ?
De cet aspect-là, sur le plan politique, oui, certainement. Parce que l'Afrique a certainement besoin de se faire représenter à plus au niveau de la prise de décision. Il y a aussi le fait que, comme structure, les agences des Nations Unies sont vraiment multiples. C'est une très lourde machine. Il y a beaucoup de... parfois des compétitions entre agences. Il y a certains gaspillages de ressources matérielles énormes. Et il faudra une réforme de gestion et de ressources, de la gestion de ressources financières aussi, pour que la machine soit plus efficace avec moins de besoins de financement. Mm-hmm. Et là, c'est un aspect sur lequel s'attelle la nouvelle administration américaine avec, le menace de réduire sa contribution au budget des Nations Unies de façon draconienne, pour forcer les Nations Unies justement à améliorer sa gestion des affaires entre les différentes alliances. Oui. Je ne sais pas si c'est tout à fait aussi une
dimension. Je pense que je partage votre avis. Simplement, il faut préciser que les États qui sont très importants dans le Conseil des exécutifs, qui ont le droit de veto,
vote régulièrement un certain nombre de résolutions pour envoyer des missions de maintien de la paix sur le terrain. Mais ces résolutions ne sont pas toujours accompagnées par l'appui financier et logistique. Alors, quand on parle de l'Afrique et des infrastructures et des investissements, mais dans les régions africaines où il y a besoin, n'est-ce pas, d'une stabilisation, comme par exemple ce que les groupes extrémistes font au Sahel, si on réduit le budget du maintien de la paix, comme on l'a fait actuellement, il est difficile, n'est-ce pas, de soutenir la paix et de gérer un certain nombre d'espaces pour permettre à l'économie de croître. Ce qui veut donc dire que même sur le plan du changement climatique, si on ne se gère pas cette situation et on règle le problème climatique, vous voyez que la réduction de l'espace du lac Tchad en tant que lieu qui a nourri tant de gens crée des populations qui alimentent Boko Haram. Donc tout cela se tient.
Raoul, vous avez entendu Suleiman et Jean-Victor. Washington veut voir les coûts de l'ONU fortement réduits. Même s'il est prêt à faire des économies, le patron de l'ONU a mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix. Très rapidement, qu'en pensez-vous, Raoul Dagba?
Je pense que réduire le coût de financement au niveau de l'ONU plongerait l'Afrique dans une situation difficultueuse. Parce que c'est l'Afrique qui a plus de problèmes et qui traverse plus de situations dramatiques. Donc je pense que ce n'est pas une bonne initiative. C'est le lieu même d'ici de rappeler ce qui s'est passé hier au niveau du Nord Kivu, où les réfugiés sont laissés pour compte, il n'y a pas de moyens d'hygiène, et ils sont, permettez-moi de le dire, ils sont devant la MONUCO. Donc je dis que ce n'est pas une bonne initiative, il faut que ils puissent revoir cet agenda-là pour que l'Afrique ne plonge pas dans des situations plus difficultueuses qu'elle traverse aujourd'hui.
Ouais, et toujours à propos d'argent, le président malien Ibrahim Aboubacar Keïta a appelé au financement du G5 Sahel, créé pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Jean-Victor, comment l'ONU peut soutenir cette initiative, cette force?
L'ONU et la communauté internationale doivent soutenir cette initiative. Vous vous souvenez du cas d'un jeune homme de bonne famille nigériane, était parti avec une sorte de bombe cachée dans ses sous vêtements et on l'avait retrouvé dans un avion à destination de l'Amérique. Je raconte cet incident parce que si vous ne réglez pas les problèmes au niveau du lac Tchad, ou au niveau du Sahel, ou au niveau de la Corne de l'Afrique, ces problèmes vont s'exporter. Vous savez, la pauvreté et la tragédie individuelle et collective peuvent facilement s'exporter et devenir une sorte de mouvement qui nourrit l'extrémisme. Donc, si le village des gens brûle très au loin, il faut penser que c'est notre village à nous. Nous faisons partie d'une petite communauté d'un même village. Et je pense que c'est l'initiative, et notamment celle-là, celle du Sahel. On se rend compte maintenant qu'un pays que peut-être les gens avaient oublié, un pays à une culture, une histoire extraordinaire, le pays de Sundiata Keïta, se retrouve maintenant au centre d'une question très importante que toute la communauté internationale, le Mali et tous les pays en voie du Sahel, nous devons tous gérer, nous y engager.
Alors très rapidement, deux autres commentaires Facebook. Gabianga, Silas, Nigeria. Pour moi, la réforme de l'ONU ne produira rien, surtout en Afrique. Le terrorisme est toujours bien organisé. Par exemple, ici au Nigeria, nul ne sait ce que cherche Boko Haram. Et Mohamed Kefing Gapa, Conakry, Guinée. La création d'une nouvelle organisation mondiale où les pays membres ont les mêmes droits et les mêmes devoirs peut sauver le monde des graves crises et des imprévus. Nous voyons en fait que les Africains sont très critiques. Évidemment, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, Suleiman Baldo. Donc toutes ces critiques et des conflits évidemment qui continuent à ravager l'Afrique. L'ONU peut être imparfaite, mais nécessaire d'après vous, Suleiman Baldo?
Le problème vient de chez nous, disons, dans la mauvaise gouvernance, de la corruption officielle qui est classe régnante dans la plupart des pays, je dirais, sont hésités, et la désespérance des jeunes qui se trouvent sans possibilité d'emploi, sans possibilité vraiment de pouvoir espérer avoir une famille, un travail régulier, de vivre avec dignité. Et donc, ils se versent dans des activités telles l'extrémisme religieux, tel l'engagement dans des économies criminelles, voilà. Comme disons, voilà. Tout cela, ça déstabilise. Ce sont des
actions de déstabilisation. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités. Merci également à toute l'équipe à Washington et à New York. Et merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide dans votre compagnie. À très bientôt. Take care. Merci.